Bonjour à vous et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine et 25 janvier 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Quiroy.
Bonjour, bonjour!
Et Yvan Deslauriers.
Oui, bonjour, excusez.
Oui, et Mathieu Tessier en régie.
Hello!
Alors, nous sommes une dynamique équipe, tous présents. Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Moi, j'ai deux articles. Un peu folichon.
Folichon?
Oui, oui, sur le fait que le gymnase, où on va faire des activités physiques, ça peut être dehors, même au mois de janvier. Okay. Et le deuxième, c'est pas folichon, c'est dans la série dans ma série des articles sur le hockey, qui touchent un peu, qui sont un peu émouvants.
Touchant, d'accord. Oui. Très bien. Et Monique?
Alors, un premier article qui est une autre découverte marquante du Québec Science, qui nous parle d'un marteau-piqueur qui sert en médecine, mais qui a été découvert en génie mécanique, complété par une nouvelle qui concerne les Jeux olympiques, donc la technologie et les Jeux de Pyeongchang.
Qui s'en viennent de plus en plus. Là, qui
ça
arrive,
fait plaisir à Yvan quand je prononce ce nom de ville.
Oui, on a quelques semaines encore avec ça. Hein.
Oui, c'est ça. Mais je vais arrêter à un moment donné. Là, surtout que c'est dans tes plates-bandes, le sport. Et ensuite, un texte sur l'extrême droite, en fait, des chercheurs se sont intéressés à cette question. Alors, qu'est-ce que c'est l'extrême droite et est-ce qu'elle est en croissance actuellement? C'est, je pense, tout à fait approprié, étant donné les nouvelles que l'on a eues hier sur cette réalité.
Oui. Mm-hmm. Et de mon côté, moi, je vais vous parler de lecture. Deux textes sur la lecture. D'abord, je vais vous présenter 5 gestes simples pour valoriser la lecture auprès des tout-petits. Et en seconde partie, je vous présente quelques extraits d'une entrevue récente avec Danielle Pénac, une de mes idoles.
Qu'on
n'a pas invité.
Ah, on n'a pas invité.
Non. Alors, voilà, c'est parti.
OK.
Monique?
Alors, un article de M. Étienne Plamondon.
Une des découvertes scientifiques.
Une des découvertes, c'est ça. Et on la situe, comme je disais, en génie mécanique. Mm-hmm. Alors, donc, c'est un article du Québec Science de janvier-février 2018. Et ça s'intitule « Un marteau-piqueur pour débloquer les artères ».
Oui, ça nous inquiète un peu.
Je vois tellement de Nicodère.
J'espère qu'il n'écoute pas.
Ben, j'espère qu'il écoute.
Oh, ben, il peut écouter parce que ça va l'aider.
Oui.
Alors, l'angioplastie traditionnelle ne pouvait plus rien pour M. Jean-Claude Bergeron, un cher pourquoi de 72 ans, qui ne pouvait plus marcher plus de 70 mètres en raison d'artères bloquées dans les jambes.
Oh.
Alors, ses vaisseaux étaient si obstrués qu'il était impossible d'y insérer un petit ballon gonflable, c'est comme ça maintenant qu'on débloque les artères, qui, en temps normal, dégage les voies comme le ferait un chasse-neige. Dans une telle situation, les médecins ont recours à la chirurgie, au pontage, voire même à l'amputation. On a cherché autre chose.
Oui.
Le docteur Andrew Benko avait à sa disposition une nouvelle technologie peu invasive développée par l'équipe de Martin Brouillette, qui est professeur au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. On parle souvent d'interdisciplinarité, de multidisciplinarité. On le voit souvent dans nos articles.
Oui.
Des domaines qui nous paraissent éloignés, mais qui en fait sont très connexes.
Oui.
C'est le cas ce matin. Donc, le 5 décembre 2016, le médecin de l'hôpital Fleurimont du CIUS de l'Estrie a été le premier à s'en servir sur un humain. Il a donc introduit le fil en titane de 3 mètres de long dans les artères du septuagénaire jusqu'au lieu de l'occlusion.
3 mètres de long?
Oui, cher ami.
C'est un long fil.
Puis, il a mis la machine en marche. Le bout de la tige a asséné une dizaine de coups à la seconde, tel un minuscule marteau-piqueur. Les mouvements microscopiques ont fracturé les dépôts calcifiés sans abîmer les tissus. Une fois l'occlusion percée, après une dizaine de secondes, le petit ballon a pu finaliser le travail.
Enfin.
Depuis, autant au Québec qu'en Autriche, ce sont 37 patients qui ont vu leurs artères débloquées de cette façon. Ce forage contrôlé est le fruit d'un mécanisme mis au point par Martin Brouillette avec ses étudiants Steven Dion et Louis-Philippe Riel. À l'autre bout de la tige se trouve un appareil de la dimension d'un gros climatiseur portatif qui génère une seule forte impulsion de très courte durée par l'addition de plusieurs milliers d'ondes mécaniques de faible amplitude et de différentes fréquences. C'est comme faire démarrer des marathoniens à différents moments, selon leur rapidité respective, afin qu'ils touchent tous à la ligne d'arrivée au même moment, illustre Steven Dion. Breveté en juin 2017 aux États-Unis, ce procédé présente l'avantage de demander une faible puissance au début de la tige, c'est ça, pour concentrer l'énergie à l'autre extrémité. C'est en 2004 que M. Martin Brouillette a commencé à jongler avec l'idée de se servir des écarts de vitesse dans la propagation des ondes à travers un solide, parce qu'en physique des matériaux, ces écarts étaient toujours vus comme un désavantage. Pour tirer profit du phénomène dans le sens inverse, il a fallu développer donc toute la théorie. Et il a fallu faire de même avec le matériel. Leur première tige était faite d'aluminium et mesurait 2,54 cm de diamètre. Les ingénieurs l'ont réduite à un tiers de millimètre et ont remplacé l'aluminium qui éclatait sous la force de l'onde générée, on peut imaginer la force, hein, par un alliage de titane biocompatible et flexible employé en orthodontie.
Mm-hmm. En orthodontie, toi?
Oui. Il avait toutes les propriétés mécaniques qu'on cherchait, souligne Louis-Philippe Riel. L'invention est rapidement devenue une entreprise. Les solutions médicales Soundbite emploient désormais 35 personnes en plus d'une poignée d'ingénieurs qui poursuivent la recherche au laboratoire d'ondes de choc. Ils reçoivent des chèques pour leur... C'est un onde de choc de l'Université Sherbrooke et ça s'appelle Locus. Une nouvelle version, en fait, de l'appareil avec une tige encore plus flexible et des propriétés électriques ajustées a déjà été testée sur des cœurs de porc et devrait servir à déboucher des artères coronariennes chez les humains à partir de 2018. Donc, quelque part cette année. Oui. Quant aux propriétés d'addition des ondes mécaniques, il pourrait provoquer une onde de choc avec bien d'autres interventions médicales, comme l'ablation des tumeurs cancéreuses. Alors, je soulignerai qu'ont participé à la découverte également Simon Bérubé de l'Université de Sherbrooke, Philippe Généreux de l'Université de Montréal et un chercheur de l'Université de Toronto. Mm-hmm.
Alors, donc, voilà. Les Jeux olympiques dans
la suite des choses.
Dans la suite des choses.
Oui, alors les Jeux olympiques, on sait que... C'est un petit article d'Anne-Marie Labrec, toujours dans le Québec Science, qui fait donc un chapitre particulier, un ensemble de thèmes s'adressant aux Jeux olympiques et la technologie. Donc, on parle de l'équipement et de l'entraînement des différentes catégories de skieurs cette fois-ci. On dit que ces équipements ont très peu changé au fil des ans. C'est plutôt du côté de l'équipement que se pointent les innovations. On utilise un petit instrument, entre autres, qui s'appelle le push device, qu'on attache au poignet ou à la taille de l'athlète. Il suit les mouvements et mesure la vélocité produite dans différents types de sauts à ski. On combine ces données à celles d'un autre appareil qu'on appelle les plaques de force. Cela aide à quantifier chaque répétition d'un exercice. Ainsi, on peut voir si l'athlète produit la même puissance à chaque saut et adapter l'entraînement en conséquence, explique M. Adrien King, directeur sciences sportives et services médicaux en ski acrobatique chez Freestyle Canada. Par ailleurs, cela sert également à évaluer la puissance développée par chaque jambe. S'il y a une différence entre les deux, le risque de blessure est plus grand. Donc, on doit ajuster aussi l'entraînement en conséquence. L'arrivée des drones a aussi facilité le travail des entraîneurs personnels qui, ce drone filme chaque course et chaque saut. On essaie de mesurer, par exemple, l'amplitude et le temps dans les airs. L'athlète regarde ensuite sa course avec l'entraîneur et peut mieux comprendre ce qu'il a à corriger.
Hey, c'est formidable.
Alors, c'était un petit article d'Anne-Marie Labrec dans le Québec Science.
Vraiment. Alors, Yvan, c'est ton tour.
Oui, c'est mon tour.
Oui.
D'un article qu'il faut prendre au sérieux, mais pas trop.
Pas trop. Et on parle d'endorphines.
Oui, c'est le carnet d'endorphines. Je le lis souvent parce que ça me fait toujours sourire. Le titre, c'est « Mon gym, c'est l'hiver ». C'est toujours sous la plume de Geneviève Lefebvre dans la presse du 17 janvier. Janvier. Il fait moins 92.
Moi, je pense qu'il fait plus froid que ça encore.
Peut-être. T'as l'énergie d'une marmotte neurasthénique et pour ajouter une couche, le monde entier conspire pour que tu prennes des bonnes résolutions, alors que ce serait un tel vent d'insubordination d'en prendre des mauvaises. Janvier qu'on disait. Le foie extra gras et le compte de banque extra maigre, tu fais fi des statistiques sur le pourcentage de gens qui tiennent leurs résolutions. Puis te voilà comme une imbécile à t'inscrire dans un gym, dans l'espoir fou d'y laisser autant de calories que d'argent. Et où est Pierre-Yves McSween pour te dire que les abonnements au gym en janvier, c'est le triangle des Bermudes des bonnes résolutions? Nulle part.
Mais non.
Il doit bien y avoir un moyen de conjuguer frugalité économique et métabolisme en mode turbo, non? Eh oui, ça s'appelle l'hiver. D'abord, se lever du divan. Ça n'a l'air de rien, mais bien que d'une simplicité désarmante, tout se joue pendant ce moment crucial. To live or not to live?
La question.
Oui! Étape réussie. Bravo, Hamlet.
On s'est levé.
Ensuite...
On est sorti du divan.
Oui, wow. C'est ça. Ensuite, tu cours partout pour rapailler les mille et une couches dont tu vas t'affubler pour affronter le grand dehors. Là, il faut penser le bruit du vent. Plutôt.
Ou le crouch, 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 crouch.
Pour compléter le réchauffement, tu mets chandail et combine dans la sécheuse, histoire de bien te partir, de bien te partir ça toasté des deux bords et de te leurrer sur l'impact du choc thermique. Pendant ces quelques secondes, tel le Christ tenté par Marie-Madeleine, tu contemples le projet de passer la journée en combine dans ton lit. C'est ici que...
À côté de la sécheuse, oui.
C'est ici que Feu France Gall vient à la rescousse, insistant pour que tu résistes.
Oui.
Que tu prouves que tu résistes. Comme quoi France est meilleure pour le cœur que Marie-Madeleine, mais je m'égare. Une fois dans le grand dehors en mode viking, une pléthore d'obstacles naturels s'offre à toi, se garoche dans ta face en fait, pour te muscler gratis. Par exemple, si tu veux rejoindre la route, il faut que tu sortes la pelle pour déblayer le chemin. Belle occasion de faire du chest-bra à un rythme d'abord lent. 4000 chroniqueurs santé vous ont prévenu des dangers de la crise cardiaque en plein temps. Surtout quand on a repris de la tourtière plusieurs fois. Puis, un rythme plus soutenu. Au milieu d'une frénésie de pelle, ton cerveau s'allume. Change de bord si tu veux développer égal. En effet, on ne voudrait pas se muscler juste de la droite.
D'ailleurs, les
ou se faire
aussi.
Mal au dos.
Encore.
Encore. Parce que la crise cardiaque, oui, mais le mal de dos, aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe.
La voie enfin ouverte, tu t'élances. Dans le grand dehors, il n'y a pas de miroir pour te renvoyer l'image de ta marmotte léthargique. Tu t'imagines donc en arfant des neiges qui volent gracieux et, oh fuck, la charrue est passée, t'as un mur de glace dans ta face.
Oui, t'as dit un gros mot. Hein?
Censure.
Moi, je lis le texte.
Oui, c'est ça.
Qu'à cela ne tienne, l'escalade de Congère, c'est top pour muscler le grand fessier. Surtout que tu t'enfonces jusqu'à la taille. Une série de contractions d'abdos plus tard, t'arrives enfin à sortir en rampant. Les voisins rient tellement qu'ils sont obligés de s'appuyer sur leur pelle. Il y en a un qui prend une photo. C'est sûr que tu vas te retrouver avec le hashtag folallié sur son Instagram. Riez, riez. C'est comme ça qu'on se travaille la force du mental et qu'on se construit un cardio assez fort pour pousser le char du voisin quand il est pogné dans le banc de neige. Hashtag pas si folle que ça. Au parc, les sentiers n'ont pas été ouverts. Tu te transformes donc en lapin bondissant, exécutant de façon magistrale un mouvement bien connu des champions olympiques, le lever du genou dans le menton. Excellent pour le cardio, beaucoup plus dur pour l'ego. Heureusement, le parc est désert. Oh non, zut! Juste devant toi, il y a un crinqué qui fait des sauts de grenouille dans deux pieds de neige folle en montant une côte. C'est pas des jambes qu'il a, c'est des fusées aérodynamiques, des cuisses de Power Rangers. Aucune trace de tourtière à l'horizon.
Il doit avoir un petit push device à son poignet, lui.
Peut-être, oui. Mise au défi, tu lâches le lapin pour la grenouille. Dans deux pieds de neige folle, le cœur qui pompe à 180 et en sueur à moins 92 centigrades, t'as une pensée émue pour ton compte de banque. T'as même pas payé pour ça.
Oh.
Alors, c'était « Mon gym, c'est l'hiver », écrit par Geneviève Lefebvre dans la presse du 17 janvier.
Oh, merci, ça nous a fait rire.
Des allures de gouttes imbibées de froidure, de mois par année dans la gelure, et l'on entend souvent,
et l'on entend souvent,
l'hiver est long. Chez nous s'éternise, nous fouette et puis nous tyrannise. Pays de voitures qui s'enlisent, et l'on entend souvent,
et l'on entend souvent,
stick d'hiver est long. Saint-Éleuthère à Mont-Laurier, Tavre Saint-Pierre à Châteaubriant. La neige qui dépasse ses limites pénètre jusque sous les marmites, les sacs. Les débarques souvent comiques, et l'on entend encore,
et l'on entend encore,
tic d'hiver est long. L'automne dure à peine une demi-heure, le rouge que les érables effleurent fait place au blanc pâle qui écoeure, et l'on entend encore,
et l'on entend encore,
stick d'hiver est long. Tomber flocons, geler les pieds de Cabanon jusqu'à Dolbeau, de près d'en haut jusqu'à Rigaud. La gadoue, la fardoche, la grippe, la guédille qui s'accroche, la fièvre, les frissons, on est tout croche, et l'on entend tout flou,
et l'on entend toujours,
l'hiver est long. chantons encore, mon beau sapin.
C'était Jean Lapointe et sa chanson « C'est-tu que l'hiver est long? »
Oui, et c'est vrai, c'est ce qui est le pire. Alors, on s'en va ailleurs
on
maintenant.
On est juste au mois de janvier.
Mais oui, ça va être long, ça va être vraiment
mais
long.
Mais presque février quand
presque
même.
Presque février,
mais
la semaine ouais, prochaine.
On s'encourage.
Puis février, c'est un petit mois.
Bon, alors, je vous amène ailleurs. On oui. va essayer de se rendre de bonne humeur. Je vous présente...
Un peu de lecture.
Un peu de lecture, on va parler de lecture. 5 gestes simples. Ça fait partie d'un dossier qui a été publié sur le site naitreetgrandir.com et c'est un dossier sur le livre « Le meilleur jouet des tout-petits ». Donc, on parle des tout-petits. Premier geste, se coller. C'est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Sans votre implication, parents, les bénéfices de cette activité sont bien moins grands. Les enfants ont cette tendance naturelle à s'asseoir sur les genoux et à se coller quand on regarde un livre avec eux. Ces moments de proximité favorisent le développement de la relation affective entre vous et votre enfant. Lorsque vous explorez un livre avec votre tout-petit, il se sent unique, privilégié et valorisé puisque votre attention est centrée uniquement sur lui et sur ce que vous partagez grâce au livre. Même si votre bébé est trop jeune pour comprendre toute l'histoire, il ressent du bien-être durant la lecture puisque vous êtes dans un état d'esprit calme, oubliant un peu le quotidien pour passer un bon moment avec lui. Tournez donc les pages lentement afin de laisser le temps à votre enfant d'observer les détails des illustrations. Second geste, explorez. Le livre est un jouet complet que l'on peut regarder, toucher, manipuler et dont on peut se servir pour jouer. Vous pouvez faire des activités simples avec votre bébé afin qu'il explore le livre à l'aide de tous ses sens. Présentez-lui un livre qui va dans le bain et qui peut être mâchouillé. Regardez-le manipuler le livre ou le mettre dans sa bouche. Votre bébé aimera faire du bruit avec les pages, gratter la texture avec ses doigts et regarder les couleurs et les images. Apprenez graduellement à votre tout-petit à regarder un livre. Comment tourner les pages? Comment le tenir ouvert? Comment lire de haut en bas, de gauche à droite? Votre tout-petit comprendra rapidement la mécanique d'un livre. Il aimera tourner les pages avec vous, d'abord plusieurs à la fois, avant de réussir à les saisir une à une. Les jeunes enfants explorent souvent les jouets en les mettant dans leur bouche, il faut le savoir. Troisième geste, nommer. Le livre est un jouet riche pour développer les connaissances de votre tout-petit et lui apprendre du vocabulaire. Il permet à votre bébé de voir son monde en images. Regarder des livres est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots. De plus, grâce au livre, votre enfant comprendra mieux les concepts complexes que sont les couleurs, les formes et les émotions. Votre bébé adore écouter votre voix. Il associe des mots à des images pour apprendre à parler. Les images qu'il voit dans le livre l'aident à comprendre ce que vous lui dites. Vous remarquerez sûrement que ses livres préférés présentent souvent des routines, la routine du bain, celle du repas, et des éléments connus, des jouets, des animaux, le parc, etc. La quantité de nouveaux mots que votre tout-petit apprend en regardant des livres avec vous est impressionnante. Quatrième geste, pointer. Attirer l'attention de votre tout-petit sur les images en les montrant du doigt. Vous l'aiderez ainsi à diriger son attention. Lorsque vous lisez à votre tout-petit, pointez les images. Avec le temps, il pointera à son tour ce qui l'intéresse. Profitez-en pour mettre des mots sur ce qu'il pointe. Ça, c'est une fleur. Ajoutez des détails. Elle est rose, elle sent bon. Et puis, mimez le geste de sentir. Les enfants aiment montrer ce qui les intéresse et ce qu'ils préfèrent. Votre bébé communiquera d'abord en vous montrant une image, puis ensuite en utilisant des mots associés à l'image. Alors, on peut reformuler en faisant des phrases de plus en plus complètes, par exemple. Vous remarquerez que votre bébé exprime ses intérêts et sa personnalité à travers les livres qu'il apprécie. Et dernier geste, jouer. Il existe plusieurs façons de profiter de la lecture avec son enfant. La lecture est l'une des activités très agréables que vous pouvez faire avec votre tout-petit. Lorsque vous lisez régulièrement, vous favorisez le développement de votre tout-petit. La lecture facilite l'apprentissage du langage. Elle permet à votre enfant d'apprendre à écouter et elle le prépare à reconnaître des mots écrits. C'est aussi l'occasion d'avoir du plaisir ensemble de façon reposante, amusante et satisfaisante sur le plan affectif. Jouer avec votre enfant et un livre, même un petit 5 minutes, c'est lui faire un cadeau pour la vie. Le livre est le jouet par excellence pour aider votre tout-petit à bien se développer. Alors, 5 gestes simples qu'on peut trouver sur le site naitreetgrandir.com. Yvan, quelques brèves.
Oui, comme c'est une émission teintée d'hiver, je vous donne quelques conseils pour initier vos enfants au ski. La première, c'est la première fois. On lui fait vivre l'expérience Manège, un programme gratuit d'initiation au ski ou à la planche à neige pour les 5 à 8 ans. L'activité, qui dure 1h30, a lieu tous les week-ends de janvier à mars dans les parcs urbains de Laval, de Longueuil, de Saint-Hyacinthe, de Québec et de Montréal. Après son expérience, notre skieur en herbe a droit à une leçon de groupe d'1 heure, incluant le prêt d'équipement dans une vraie station de ski. Pour information, manège.com.
Intéressant. Monique?
Une petite brève en génétique.
Ah oui?
Alors, une équipe japonaise a réussi à produire des chrysanthèmes bleus. Pour cela, elle a ajouté au génome du chrysanthème, 2 gènes provenant de 2 plantes différentes, la clochette de Canterbury et le pois bleu.
Oh, c'est joli!
Oh, regardons ça, toi.
Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Les Voix de service magazine se poursuit après la pause. À tout de suite! Avant de partir, tiens, l'acier, selon Fulbert, 9 ans, c'est un métal qui est plus résistant que le bois, mais moins naturel.
Oui, c'est un petit peu...
Je trouvais ça joli.
Un peu de raison.
Alors, on se revoit après la pause.
Charles-Antoine Gosselin, sa chanson « L'hiver arriverait en retard
». C'est ce qu'on... En tout cas, il est arrivé là, ici, ça c'est certain.
On espère beaucoup qu'il partira pas en retard.
Non, effectivement. Monique, on parle d'extrême droite maintenant.
Oui, exactement. C'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 13 décembre 2017. Mais je pense qu'il est très actuel, étant donné les données justement qui ont été publiées hier, avant-hier dans les journaux, relativement à l'extrême droite. Mm-hmm. Et aux événements de Québec. Donc, il s'intitule « Extrême droite au Québec, un phénomène social et politique en croissance ».
C'est une question.
C'est une question. Ouais. Différentes manifestations associées à des groupes d'extrême droite ont fait les manchettes au cours des derniers mois au Québec. Et on peut avoir l'impression que les idées qu'ils véhiculent trouvent un écho dans l'opinion publique et dans le discours politique. Mais est-ce bien le cas? Globalement, l'apparition de groupuscules tend à appuyer l'idée d'une certaine montée de l'extrême droite au Québec, mais il s'agit surtout de coalitions éphémères, fragiles et artificielles. Néanmoins, la résonance de leurs discours sur les plateformes numériques semble engendrer une banalisation d'idées préconçues et de propos négatifs à l'endroit de certaines communautés. C'est ce qu'ont fait valoir trois experts réunis à l'occasion d'une table ronde tenue par le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal le 6 décembre dernier. Depuis 2013, deux chercheurs mènent une enquête sur le terrain au cours de laquelle ils ont rencontré, non sans difficulté, une cinquantaine de personnes membres de ces groupes ou qui l'ont été. Ils en avaient contacté environ 300, mais seulement 50 ont consenti à parler et ce n'étaient que des hommes. Mmh. Avant de les interviewer, Samuel Tanner, qui est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, et Aurélie Campana, des hautes études internationales de l'Université Laval, ont dû, bien sûr, définir ce que sont les courants de droite et en quoi ils se distinguent. D'un côté, il y a l'extrême droite, qui renvoie à une idéologie clivante au chapitre de la race, de la religion et de l'origine ethnique, qui revendique l'usage de la violence pour passer son message, indique M. Tanner. Et de l'autre, il y a la droite radicale, qui s'en écarte en adoptant des positions très critiques à l'endroit des élites et des bien-pensants, comme le fait The Rebel Media au Canada. La droite radicale a un style populiste et tient un discours nationaliste et anti-immigration. Mm-hmm. Ça nous fait penser à quelqu'un.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Elle ne revendique pas la violence, mais elle ne la condamne pas non plus. Ça. Et en ce sens, ses propos n'en sont pas moins dangereux. Il y a une absence de consensus sur ce qu'est l'extrême droite, l'ultra-droite, et la droite radicale, mais elle forme une nébuleuse composée de groupes, peu ou pas liés à des partis politiques traditionnels, qui dénoncent le pluralisme, le multiculturalisme, la démocratie et son fonctionnement, soulignent nos deux chercheurs. Une sociologue et chercheuse au Centre Urbanisation Culture-Société de l'Institut national de recherche scientifique, Denise Ellie, mentionne que l'extrême droite a refait surface dans le monde au cours des dernières décennies à la faveur de la mondialisation de l'économie et d'une triple bifurcation qui en a découlé. D'une part, le déclin des secteurs manufacturiers et de l'industrie lourde a sapé la classe moyenne des emplois. Depuis 30 ans, les emplois qui se créent requièrent plus de compétences et nombreux sont les laissés pour compte qui éprouvent de plus en plus de difficultés à jouer un rôle dans la société. D'autre part, il y a une accentuation du flux migratoire et des emplois précaires. Statistiquement, nous sommes dans une période de plein emploi, mais dans la réalité, on a assisté à une baisse et à une précarisation des emplois qui se sont traduites par des statuts temporaires, le travail à temps partiel et la sous-traitance. Mmh. Enfin, la financiarisation de l'économie entraîne des bulles spéculatives, car il y a moins de secteurs où investir. Il ne se crée presque rien en matière d'emploi durable. Selon elle, toutes ces transformations se répercutent sur le statut social des individus, tant sur leur position dans la hiérarchie sociale que sur la façon dont ils se perçoivent dans cette hiérarchie. Vivant surtout en région rurale ou périurbaine, les victimes de la mondialisation n'ont aucun moyen pour manifester le déclin de leur statut, pas de moyen pour se défendre et pour se reconstruire, soutient la sociologue. Avec les pertes de revenus qu'ils subissent, ils craignent pour leur statut social et celui de leurs enfants. Ils adoptent donc des valeurs liées à la nation, à la moralité et à la masculinité. Selon les données partielles de la recherche qu'effectuent Samuel Tanner et Aurélie Campana, afin de brosser le tableau de l'extrême droite au pays, cette mouvance s'avère très fragmentée, surtout au Québec, exception faite de la Meute. Toutefois, ces groupes s'avèrent particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, notamment à travers des pages Facebook privées, des blogs et blogs vidéo, ainsi que des web-émissions. Ces plateformes agissent comme des incubateurs d'idées, de communautés et de rencontres. Les regroupements usent de toutes sortes de moyens pour recruter de nouveaux membres, comme des jeux questionnaires tendancieux. En observant la hausse des crimes haineux en 2015, principalement à l'endroit des communautés musulmanes, on peut penser que leurs démarches ont des répercussions sociales importantes. Et c'est ce qu'on relatait dans les nouvelles
récentes.
Tout à fait récentes. Alors voilà. Donc, soyons attentifs. C'est un phénomène qui est présent, bien que fragile, mais bien présent.
Alors, je vous présente un texte de Julia Vergely, publié sur le site telerama.fr. C'est un site que je ne connaissais pas. Mais dans ce texte, on présente une entrevue que Mme Vergely a faite avec Daniel Pénac. Et le titre de l'article, c'est « Daniel Pénac, si vous croyez un enfant qui vous dit qu'il n'aime pas lire, alors il est foutu ». L'auteur de la célèbre saga Malocène était le parrain de la deuxième nuit de la lecture qui se déroulait samedi dernier partout en France. Il revient en entrevue sur les livres de son enfance et le plaisir de la lecture à voix haute, évidemment. Quelques extraits donc de cette rencontre. L'auteur de la célèbre saga Malocène s'est fait depuis longtemps l'apôtre des livres et du plaisir de la lecture, dont il a défini les 10 droits imprescriptibles dans son essai « Comme un roman » en 1992. Du bonheur des ogres aux aventures de Camus, il a ravi des centaines de milliers de lecteurs, toutes générations confondues. En décembre dernier, des études fustigeaient encore la baisse du niveau de lecture chez les écoliers français. Il n'y a pas qu'au Québec que ce phénomène-là inquiète. Il paraît qu'ils sont de moins en moins bons et qu'ils ne lisent plus. C'est une vieille marotte ou une réalité, a-t-on demandé à Daniel Pénac. Et il répond « Je suis un vieux professeur à la retraite. J'ai enseigné le français pendant 30 ans. En 1969, quand j'ai fait ma première rentrée, la première chose que j'ai entendue de la part de mes collègues dans la salle des profs, c'était « Les élèves ne lisent plus et le niveau baisse ».
C'est la même chose par rapport à l'écriture. Hein?
Tout à fait. Oui, complètement. Voilà plus de 50 ans, on disait déjà ça. On rabâchait déjà cette vieille rengaine, on a toujours dit cela. Mais qui est ce « on » Les adultes, évidemment. La réalité, c'est que les enfants ne lisent pas autant que les parents voudraient qu'ils lisent. Ils répètent sans cesse « J'aimerais tellement que mon fils soit cultivé ». C'est une phrase toute faite. Ce que les adultes désirent vraiment, c'est que leurs enfants aient le bac, et puis si possible un diplôme et un emploi. Tout ça n'a rien à voir avec la culture ni avec la lecture, dit-il. Donc, Daniel Pénac propose de clore ce débat. Deuxième question qu'on lui a posée, que lisiez-vous quand vous étiez enfant? On ne me faisait pas la lecture quand j'étais petit. Pardon. Ma mère avait 4 garçons, elle avait beaucoup de boulot et peu de temps. ce qui a fait de moi un lecteur, c'est 11 ans de prison. J'ai été mis en pension, de la 5e à la terminale, en redoublant un certain nombre de classes. Pensionnaire, j'avais parfois un besoin de retrait, d'un monde à moi. Et ce monde, c'est la lecture qui me l'a fourni très tôt. En plus de cela, il était interdit de lire. À l'étude, on devait faire nos devoirs et rien d'autre. Donc, on se planquait. J'ai volé mes premières lectures. Quel délice! En 5e, ça correspond à 12 ans au Québec, là, c'est la 6e primaire ou la première secondaire, j'ai lu Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. J'ai lu beaucoup de classiques russes aussi, Dostoïevski, Tchekhov, Tolstoï, par pur esprit de contradiction, pour ne pas lire les classiques français qui, eux, étaient des exigences scolaires. Je m'évadais alors chez les Russes et chez Dickens. Mes toutes premières émotions de lecture m'ont été apportées par des textes très tristes. D'abord, Andersen et Le vilain petit canard. Parce que j'avais beaucoup de complexes, j'étais nulle à l'école et je m'identifiais à ce canard. Ensuite, ça a été La chèvre de M. Séguin, cette espèce de combat pour la liberté, incarné par le personnage de cette adorable petite chèvre, tellement vaillante, déterminée, bien que sans espoir. L'idée que les choses étaient perdues d'avance me bouleversait. J'adorais cette histoire. Pourquoi les enfants aiment-ils autant les histoires tristes, lui a-t-on demandé? Parce qu'ils ont le sens de la mort. Les petits-enfants sont naturellement métaphysiciens. Liés à leur naissance, qui n'est pas très loin d'eux, il y a l'idée de la mort et le risque que leurs parents meurent. Après, avec la puberté et le début de l'adolescence, ils deviennent psychologues et moralistes. Ils trouvent que leurs parents sont des cons. Ils les ont idéalisés et ils les ramènent à leur juste proportion. Dans un élan de transmission, que lisiez-vous à votre fille? Ma fille lit beaucoup, mais c'est quelque chose de naturel chez elle. Quand elle était petite, je lui racontais Ernest et Célestine. J'étais Ernest, le gros ours, et elle était la petite souris. Dans les droits imprescriptibles du lecteur que vous définissez dans un roman, le 9e droit est celui de la lecture à voix haute. Vous en parlez comme d'un rituel essentiel pour les plus jeunes. Vous écrivez qu'à chaque fois que vous faisiez la lecture à votre fille, entre vous, l'amour y gagnait une peau neuve. Moi, je trouve ça tellement joli. Mm-hmm. Vous avez fait beaucoup de lectures à vos élèves. En quoi est-ce que la lecture à voix haute est-elle un mode de lecture primordial? J'avais des élèves réputés nuls, déglingués. Ce n'était pas de leur faute, mais ils étaient dans un désarroi scolaire total et surtout, ils affirmaient ne pas aimer lire. Si vous croyez un enfant qui vous dit qu'il n'aime pas lire, alors il est foutu. Et vous, en tant que professeur, vous êtes foutu aussi. Il ne faut surtout pas le croire. En réalité, ce qu'il vous dit, c'est « J'ai peur de la question que tu vas me poser inévitablement une fois que j'aurai lu. Mm-hmm. » Donc, pour réconcilier cet enfant avec la lecture, il faut lui en faire cadeau et lui lire quelque chose à voix haute. Le procédé rencontre d'abord une résistance. Ils vous disent « On a passé l'âge. » Évidemment, vous les piégez en 5 petites minutes avec les textes les plus merveilleux de la littérature. Quel plaisir prenez-vous à faire la lecture comme cela? Avec les élèves, le plaisir, c'est de voir le texte s'incarner dans les visages. C'est merveilleux, l'incarnation du texte dans un regard. Le gosse, au début, il affecte de s'emmerder, il affecte de ne pas aimer ça, et puis, petit à petit, il y a cette transformation météorologique. Le ciel qui devient bleu dans ses yeux, ça ne rate presque jamais. Les réfractaires absolus à la lecture sont très rares. J'ai dû en rencontrer un ou deux en 30 ans d'enseignement. Et c'est comme cela qu'on donne le goût de la lecture? C'est la dernière question qu'on lui a posée. Exactement. Il faut raconter des histoires aux plus jeunes. Alors, quelques extraits de ce texte de Julia Vercheli, publié sur le site telerama.fr. Alors, Yvan, un texte qui va nous toucher, semble-t-il.
En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché.
Oui.
Alors, je vais essayer de vous le retransmettre de façon correcte. C'est des extraits de l'article « Travailler fort dans les coins » écrit par Patrick Lagacé dans la presse du 17 janvier 2018. Mercredi dernier, pas hier, l'autre avant, à Trois-Rivières, la Fondation des Canadiens de Montréal a inauguré la 10e de ces magnifiques patinoires extérieures réfrigérées, les patinoires bleu, blanc, bouge. Le principe est charmant. Le CH installe dans un quartier défavorisé une patinoire d'un calibre que seuls les quartiers riches peuvent se payer. L'idée est de donner aux jeunes de ces quartiers un accès à une installation qui fasse l'envie de tous en leur donnant le goût du sport. C'était la fête. Guy Lafleur, Régent Houle, Jean-Guy Talbot et Youpi sont débarqués sous une petite neige. Les kids sont rentrés sur la patinoire au son de la même chanson de Coldplay qui accueille les joueurs du CH. Parmi les légendes se trouvait un ex-joueur qui n'est pas une légende du club, un ancien numéro 22 qui n'est pas Steve Schott. Je parle bien sûr du retraité Steve Bégin, qui a joué 5 saisons avec le Canadien. La beauté de la présence de Steve Bégin, qui avait sur la glace un cœur gros comme le moteur d'une Zamboni, peut-être même gros comme la Zamboni elle-même, c'est que la patinoire bleu-blanc-bouge a été inaugurée dans le même parc-école où il jouait enfant. C'est aussi que cette patinoire magnifique, financée par son ancien club, est destinée au genre d'enfant que fut, dans les années 1980, le petit Steve. Un enfant pauvre. C'est son père qui l'élevait, lui, son frère et sa sœur. Un père qui a fait de son mieux, mais qui était plombé par une maladie, l'alcoolisme. L'alcoolisme empêchait Gilles Bégin de garder un emploi et la famille vivait du chèque de BS du père. Il n'a jamais été déplacé, il n'a jamais levé la main sur nous, dit aujourd'hui Steve Bégin. Mais quand même, la vie était rude dans le quartier qu'on appelle District des Rivières. Et dans le logement de Gilles Bégin, c'était un quartier reconnu comme très pauvre, des HLM. Pour manger, un dépanneur épicerie nous faisait tout à crédit. Au premier du mois, mon père allait payer. On était plusieurs familles comme ça. Steve Bégin vous raconte ça et il n'a aucune amertume, ni contre sa vie d'enfant, ni contre son père. Tu me donnerais la chance de renaître dans une famille riche, ce serait non. Je retournerais d'où je viens. Ça m'a apporté de la discipline, ça a forgé mon caractère. Mon père me disait, si tu veux quelque chose, travaille pour, parce que Noël, c'est juste une fois par année. Et c'est ce qui a fait la marque de commerce de Steve Bégin. Un travailleur infatigable, pas le plus doué sur la glace, jamais. Mais une volonté à faire des trous dans les bandes, à bloquer des tirs, à rentrer dans le tas. J'ai toujours travaillé plus fort que les autres, j'ai toujours voulu en donner plus que les autres. Et c'est en donnant plus que les autres qu'il a fini par accéder à la LNH et à s'y façonner une carrière respectable. Au tournant des années 2000, aux portes de la LNH, il était dans la Ligue américaine. Steve est débarqué à Trois-Rivières chez son père Gilles. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu. La boisson rongeait son père comme jamais. Steve a dit à Gilles, « T'as 5 minutes. Ramasse tes affaires, je t'amène au AA. »« Hey, je fais mal à personne, » lui a répondu Gilles Bégin. « Non, » a répliqué le fils, « mais tu te fais mal à toi. » Le père résistait. Le fils l'a alors empoigné, l'a traîné devant un miroir. « Si tu me dis que tu es capable de te regarder dans le miroir, papa, puis que t'es bien, je t'achale plus. » Gilles Bégin n'a pas levé la tête. « Je suis plus capable », a-t-il simplement dit. Steve Bégin a déposé son père dans un centre des Bois-Francs. Gilles Bégin y a passé 28 jours en cure fermée et il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Lors de l'inauguration de la patinoire bleu-blanc-bouge du parc-école Cardinal Roy, qui était à côté de Steve Bégin avec un foulard et une tuque du Canadien? Gilles Bégin lui-même. La ville de Trois-Rivières a annoncé que le pavillon ultramoderne qui flanque la patinoire bleu-blanc-bouge portait le nom de Steve Bégin,
plus célèbre fils du quartier des Rivières. C'est le maire, Yves Lévesque, qui a eu le flash et qui l'a annoncé. « Tout à fait normal, dit-il. Steve incarne tant de valeurs de détermination et de persévérance. » Steve Bégin, lui, était soufflé en apprenant la nouvelle. Il n'a jamais recherché les honneurs individuels. Il s'est toujours effacé derrière l'équipe, le groupe. Mais là, un pavillon à son nom, dans son quartier, dans son parc, là où il a appris à jouer et à patiner. Disons que je suis fier. Je l'ai rappelé en soirée, il y a quelques jours, pour vérifier des détails. Je te prends un mauvais moment? Non, je prépare un examen, une production écrite de 500 mots. À 39 ans, retraité du hockey depuis 5 ans, Steve Bégin étudie pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Il a dû abandonner ses études quand le rêve du hockey dévorait son adolescence. Bref, aujourd'hui, il bûche encore, même s'il n'a plus à aller dans les coins pour gagner sa croûte. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse des posters de Steve Bégin. C'est pourquoi il faut dire et redire son histoire. Parce qu'il incarne cette vérité universelle. Le travail est toujours, toujours, toujours plus important que le talent pour la majorité d'entre nous. Mmh. Alors, c'était des extraits de l'article « Travailler fort dans les coins » écrit par Patrick Lagacé dans la presse du 17 janvier.
Que tu veux que je fasse là?
Alors, pour aller dans le même sens, puis pour nous remonter le moral, tiens, 18,1% des jeunes Montréalais décrochent avant d'avoir obtenu un premier diplôme. C'est une amélioration de 6,5% depuis 2009.
Oh, quand même.
Alors, on encourage donc les jeunes à persévérer.
Mm-hmm. Totalement.
Oui. Monique?
Oui,
oui.
Une petite capsule.
Une petite capsule linguistique, s'il vous plaît.
Faites-vous du wishful thinking.
Ah oui, ça m'arrive.
Oui, alors la locution anglaise n'a pas d'équivalent en français. En effet, on peut difficilement utiliser la traduction littérale de cette expression, en l'occurrence, pensée utopique.
Ah,
c'est moins efficace,
non.
Hein?
Oh,
il existe cependant quelques solutions intéressantes et tout à fait françaises pour rendre la même idée. Par exemple, au lieu de dire « tu fais du wishful thinking » à quelqu'un dont les attentes sont irréalistes, on peut dire à cette personne « tu prends tes désirs pour des réalités, tu peux toujours rêver, tu as le droit de rêver, tu n'es pas réaliste ». Et au lieu de dire « c'est du wishful thinking » en parlant d'une chose qu'on souhaite, mais qui n'est absolument pas réalisable, il est plus correct de dire « ce sont des vœux pieux ».
Ah,
par définition, un vœu pieux est un vœu sans aucun espoir de réalisation.
Mmh. Okay. D'accord.
Okay. Au pire, ouais. Vous n'êtes pas d'accord.
On essaie d'être convaincus.
Alors, parmi les conseils pour initier les enfants au ski, un autre conseil, c'est de skier près de la maison. Lors des premières sorties, on choisit une station qui n'est pas trop loin de la maison. Ça nous évitera bien des frustrations si notre débutant veut cesser de skier après une heure. Puis on essaye d'être garé souvent près du chalet, mais si on ne peut pas, on apporte un traîneau pour y déposer ski, bâton, casque et sac. Ça, c'est moins pénible.
Voilà. Alors, je vous laisse sur un mot d'enfant. L'écologie, selon Paxty, 6 ans et demi, c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas casser la terre en 1000 morceaux.
Oh, c'est bon,
c'est
ça.
C'est joli, hein?
Oui, parce qu'elle termine, est bien cassée.
On termine avec cet espoir pour la planète, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier pour les liens musicaux et la mise en onde. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci, chers collaborateurs. On vous retrouve la semaine prochaine.